culture orientale. J'ai repris totalement ce qui...
Moi, c'est l'hymne de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en continuant les deux précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'en parole aux auditeurs. Instaurée depuis 1976, la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année vise à sensibiliser les gouvernants et les communautés sur la lutte pour la promotion et le respect des droits des enfants. Pour accompagner cette lutte, la RDC s'est dotée de certains instruments juridiques, notamment la loi sur les violences sexuelles de 2008, la loi portant protection de l'enfant de 2009, ainsi que la création et l'installation des tribunaux pour enfants. Certains observateurs estiment que ces lois ont contribué à améliorer la situation de l'enfant congolais. Une autre opinion estime par contre que l'amélioration de la situation de l'enfant congolais ne peut passer que par l'amélioration des conditions de vie des parents. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en onde par Dumas Zangou. Julie Feza est à la réalisation et Thierry Ilamegi vous la présente sous la supervision de Léonard Moulamba. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Café Foot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Café vous donne la parole. Au Café Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Hier, le monde a célébré la journée de l'enfant africain, l'occasion pour parole aux auditeurs de se pencher sur l'impact des instruments juridiques adoptés et promulgués en RDC en faveur du droit de l'enfant, la loi de 2008 sur les violences sexuelles, la loi de 2009 portant protection de l'enfant, ainsi que la création et l'installation de tribunaux pour enfants. Est-ce que cela a pu contribuer à améliorer la situation de l'enfant africain? C'est au cœur de notre échange dans cette émission Parole aux auditeurs. Et nous avons associé Maître Moussengue Bibiche, avocate et coordonnatrice des RJUEPA, une ONG qui milite pour la réinsertion et l'encadrement des jeunes et la prise en charge de personnes âgées. Maître Moussengue Bibiche, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour. Maître Bibiche, bonjour. Voilà, on a encore des petits soucis avec Maître Bibiche qui est avec nous dans cette émission. De moment à l'autre, on va la revoir. Maître Moussengue Bibiche, vous êtes avec nous dans cette émission, bonjour. En attendant, il y a Maître Likonza qui nous a appelé de Kinshasa, mais beaucoup d'auditeurs ont déposé des messages sur la page Facebook de Parole aux auditeurs. Beaucoup d'internautes, bien sûr, qui se sont exprimés par rapport à ces sujets. Il y a, par exemple, Gilbert Kalumbu de Kananga. La RDC peut ratifier autant des chartes permettant la protection des enfants. C'est bien, mais cela ne pourra pas améliorer leurs conditions de vie si celles de leurs parents sont encore médiocres. Le mieux à faire est d'améliorer la vie sociale des parents afin qu'ils assurent l'encadrement des enfants, car si un papa est mal rémunéré, il ne saura pas payer les études des enfants et répondre à leurs besoins vitaux. C'est pourquoi les banditismes se multiplient. Maître Likonza, vous êtes ici à Kinshasa, vous nous avez rejoint dans cet échange. Bonjour. Maître Likonza, bonjour. Voilà, des petits soucis de ligne avec nos deux intervenants qui étaient là, Maître Moussengue Bibiche est invité, ainsi que Maître Likonza de Kinshasa, 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Je crois maintenant la ligne s'est améliorée. Maître Moussengue Bibiche, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes avocate et coordonnatrice de RJUEPA, qui est ONG qui milite pour la réinsertion et l'encadrement des jeunes, mais aussi la prise en charge des personnes âgées. Et nous, en célébration de la journée de l'enfant africain, nous essayons dans cette émission de nous pencher sur les instruments juridiques qui ont été adoptés en RDC, à promulguer la loi portant protection de l'enfant, la loi sur les violences sexuelles, mais il y a aussi la création et l'installation des tribunaux pour enfants pour voir dans quelle mesure cela a contribué à améliorer la situation de l'enfant congolais. On vous écoute, maître.
Merci, monsieur. Oui, nous avons la loi portant protection de l'enfant, numéro 09/001 du 10 janvier 2009, la loi sur la violence sexuelle. Mais nous sommes en train de soutenir cette initiative parce que l'intérêt général de l'enfant a été pris en charge, parce que c'est l'humanisme de l'enfant tel que l'article 57 le dit très bien là. Mais bon, il y a beaucoup de faiblesses par rapport à cette loi-là. Nous sommes en train de constater, puisque nous sommes de résidence à Boma, dans le Congo central, le tribunal pour enfants ne sont pas installés dans toutes les juridictions, et c'est d'office le tribunal de paix, tel que dit la loi, tu le fais, mais en matière d'appel, puisque la loi dit bien que le tribunal de paix, de l'enfant, en fait, siège en première et en deuxième instance, mais c'est la problématique est qu'en deuxième instance, c'est les tribunaux de grande instance maintenant qui est compétent, parce que les tribunaux de paix ne sont pas, les tribunaux pour enfants ne sont pas installés. Mm-hmm. Alors, il n'y a pas d'intérêt par rapport à tout ça. Et ce que nous sommes en train de constater aussi, c'est la procédure, la vulgarisation. La population ne connaît pas cette loi-là. Et par rapport aux décisions, il n'y a pas de décision par rapport à la loi. Si vous passez dans les juridictions des tribunaux pour enfants, précisément dans mon ressort là à Boma, vous allez constater qu'il n'y a pas de décision parce qu'il n'y a pas de contrainte. C'est ça la faiblesse de contrainte par rapport à l'enfant qui est en contact avec la loi. Les tuteurs qui viennent, qui prennent des engagements, qui ne ramènent pas l'enfant aux audiences, et comme le 110 ne provoque pas des défauts. Les défauts étaient exclus d'office par rapport à la procédure d'enfant qu'on fait avec la loi. Donc, la juridiction ne s'est pas avancée. Donc, il n'y a pas de décision, il n'y a pas d'arrêt en matière d'enfant. Donc, c'est ça, ce sont ça, tout ça des faiblesses et l'impunité. Nous avons fait à un moment le résultat de monitoring dans le lieu de détention. Il y a jusque-là dans les postes de police toujours des enfants qui sont détenus malgré les avantages qui leurs autres sont accordés. Donc, il y a un problème de preuve. Problème de preuve, puisque la population ne connaît pas la loi. Et par rapport à ces éléments-là, il y a des doutes qui font que l'impunité règne au sein des audiences ou de conflits qui sont relevés par rapport à ces problèmes.
Alors,
nous sommes en train de parler de l'article 61 de la protection de formes de violence de l'enfant.
Oui.
Il y a maintenant le film pornographique, il y a la libéralisation de sites, je ne sais pas, tout ce qui est cybercafé et autres. Donc, cette histoire-là de pornographie, que les spectacles, les chansons obscènes, bientôt la session de vacances, les enfants seront voués et très disposés à ces genres de violences que personne n'essaie de relever.
Mm-hmm.
Les mariages forcés dans le lieu régulé. Nous avons fait les assistants judiciaires dans le milieu, comment appelle ça, le milieu dans le bas Congo, là, c'est des Banza qui s'envoient. Il y a des enfants qui sont, les parents qui se mettent d'accord pour donner les enfants en mariage. Donc, y a, la loi est là, mais la loi ne s'adapte pas, aussi aux cultures africaines.
Mm-hmm. Maître Bibiche, je sais que vous rejoignez, il y a une opinion qui estime que le fait d'avoir ces instruments juridiques, et ça soit la loi ou les tribunaux pour enfants, seul ne peut pas résoudre la question de la situation de l'enfant. Si on ne peut pas aussi, sur le plan social, ne penser à améliorer la situation des parents, qui doivent en principe encadrer les enfants pour éviter que ces derniers ne se retrouvent, que ce soit en conflit avec la loi ou bien abandonnés, par exemple, sur la place publique.
Oui, justement, ces enfants ne doivent pas être abandonnés dans des places publiques. La situation de parents doit être améliorée. Mais ça sera pourquoi?
Voilà, c'est
on parle de la situation socio-économique, mais ces enfants, nous avons été à une formation au Mali, bientôt là nous serons en Strasbourg pour le droit comparé, le droit de l'homme et le droit de l'enfant. Qu'est-ce que nous allons dire là-bas? Parce qu'on est en train de prôner l'enfant de la rue, l'enfant en rupture familiale, en RDC. Mais problématique-là, qu'est-ce que nos dirigeants, qu'est-ce que la gouvernance est en train de prôner par rapport à ça.
Par rapport à ça, on va voir. Voilà. Nous allons aborder ensemble toutes ces questions dans cette émission consacrée, bien sûr, à la célébration de la journée de l'enfant africain. Comment arriver à changer la situation de l'enfant congolais par rapport aux instruments juridiques internationaux, aux instruments juridiques nationaux, mais aussi, d'une manière globale, l'examen de la situation de l'enfant. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct, 081-890-7315, si vous avez besoin de mettre un point de vue par rapport à cette situation. Maître Sonville, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, monsieur le journaliste.
Et à Lubumbashi, je crois bien que c'est l'une des villes qui a bénéficié, je crois bien, l'installation d'un tribunal pour enfants, en expérience pilote d'ailleurs. Mais aussi, c'est une ville dans une province où il y a une forte exploitation minière, parce que plusieurs fois les enfants sont retrouvés en train de travailler dans les mines. Est-ce que la loi, le tribunal et d'autres mesures prises même localement ont-ils contribué aujourd'hui tant soit peu à améliorer la situation de l'enfant dans la province?
Oui, j'estime que les enfants en conflit de la loi sont déférés devant le tribunal de Sion, en ce qui concerne le tribunal pour enfants. Il y a des fois, ils sont déférés devant la police pour la protection des femmes et enfants. Ils se situent sur la chaussée Kassenga, ici en partant vers Bel Air. Mais néanmoins, il y a quand même une légère amélioration, mais tout reste à faire. Uh-huh. Pourquoi je dis cela? Les lois sont bien, mais il faut que ces lois-là soient d'application et d'application. Puisque le subventionnement même de ces lois, c'est la loi fondamentale. Par rapport à l'article 41, monsieur Jouet, il dit que les parents ont le devoir de prendre soin des enfants et d'assurer leur protection contre tout acte de violence, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du foyer. Ça, c'est en ce qui concerne les parents. En ce qui concerne les pouvoirs publics, le pouvoir public a l'obligation d'assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer devant la justice les auteurs et les complices des actes de violence à l'égard de ces enfants-là. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui par rapport à la situation du comportement des enfants? D'abord, les parents sont mal payés. Les parents n'ont pas le moyen pour subvenir aux besoins scolaires des enfants-là. Or, il a été dit toujours dans cette même loi fondamentale que les enseignements sont gratuits et obligatoires pour les enfants dans les établissements publics. On a commencé avec d'autres provinces, hormis les deux provinces, Kinshasa et Lubumbashi. Est-ce que dans d'autres provinces, cette loi a été effective? Là encore, nous posons des questions. Hormis cela, monsieur Pierrot, si nous pouvons encore continuer, afin qu'on serve toujours le pouvoir public, les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à un développement intégral. Or, aujourd'hui, nous constatons qu'il y a spoliation des espaces réservés à la jeunesse, entre autres, ici à Lubumbashi, ni que les efforts de Kofi Mandala, qui est le commissaire des scouts, on devait spolier tout l'espace qui a été orienté, qui a été réservé aux scouts. Parce que vous savez, lorsqu'un enfant passe par le mouvement des jeunes, c'est une éducation plus que même la scolarité. Or, comme les parents sont dans les possibilités, dans leurs enfants à l'école, on pouvait même soutenir ce genre de mouvement pour que les enfants, même par ce mouvement-là, puissent acquérir une certaine connaissance. Hormis cela, M. Gilles, il y a déficit de communication. Comme les deux lois ont été promulguées, qui ont comme subvention la loi fondamentale, cela devait être vulgarisé dans toutes les langues, dans toutes les quatre langues, pour permettre à tous les parents, et ceux-là qui ont eu la chance de passer sur le banc de l'école, et ceux-là qui ne sont pas passés sur le banc de l'école, de comprendre, d'interpréter cette loi-là afin de placer le garde-fou par rapport au comportement des enfants. Et tout cela, peut-être, ça se fait des fois avec les ONG à la matière en question. Ici, à Lubumbashi, quand même, nous avons vu à un certain moment, à la prison de la Kasatala, le gouverneur de province de Kinshasa construire un cadre de récupération, des bâtiments de récupération des jeunes qui eraient les grandes artères de la ville de Lubumbashi. Et certains sont sortis de là, en connaissant certains métiers, la mendicité, la condamnation, tout ça, mais là, ils sont utiles à la société. C'est ça qui manque un peu en ce qui concerne notre pouvoir.
Voilà, merci. Merci beaucoup, Maître Sonville. Vous estimez qu'au-delà du fait que les lois ont été promulguées, adoptées, promulguées, mais il y a un problème de déficit communicationnel en termes de sensibilisation de la population. Maître Monseigneur Bévis, je venais de le dire, non, qui est notre invité dans cette émission. Il y a ce problème qui s'est posé aujourd'hui. Les lois sont assez ignorées par la population, mais il y a aussi un autre problème, c'est l'encadrement global de parents qui doivent assurer l'éducation de leurs enfants. Il y a le problème de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques qui se posent aujourd'hui. Il y a le problème de spoliation des espaces des loisirs pour la jeunesse. Alors, ça veut dire qu'il faudrait des mesures conjuguées, que ce soit sur les plans sociaux, sur les plans juridiques, pour arriver à améliorer la situation de l'enfant. Mais il y a quand même des efforts qui ont été fournis à Lubumbashi et dans la province du Katanga. Merci beaucoup. Nous avons Franck qui nous appelle de Vienne. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, M. Chokiro. Bonjour à notre invité. Bonjour également à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Et pour améliorer la situation de l'enfant congolais, au-delà des instruments juridiques et la volonté de les faire appliquer, qu'est-ce qui doit être fait, Franck?
Merci beaucoup. Je dois commencer par présenter notre visibilité à tous les enfants africains, de manière exceptionnelle à nos enfants congolais. Sans eux, sans nos enfants, notre société congolaise n'a pas d'avenir comme les autres sociétés du monde qui dépend aussi de l'avenir des enfants. Monsieur Thiro, je crois que nous devons commencer par rappeler certains préalables. L'avenir de chaque société des hommes, l'avenir de chaque État, l'avenir de chaque nation, disons que l'avenir de notre monde comme espace de vie communautaire, n'est assuré que quand nous avons de la progéniture, que quand il y a des hommes et femmes bien préparés pour leurs responsabilités futures. Puis dans cette logique, la place des jeunes, la place des enfants, c'est l'épicentre pour la réussite même de cette attente projetée dans l'avenir. Et par rapport à l'avenir des enfants congolais, nous aurons à dire, nous aurons à objecter et il y en aura toujours. Parce que le danger c'est quoi? Je crois que je ne vais pas polariser le débat qui est pour moi sensible et capital, d'une grande importance. On ne doit pas réduire l'avenir des enfants congolais à base de petits échantillons de ces enfants qui proviennent soit des familles nanties ou des enfants qui ont la chance de se retrouver dans certains centres et milieux urbains de la RDC. Monsieur Pierrot, moi quand je parle de l'avenir des enfants, c'est en connaissance de cause. Je reconnais qu'il y a quand même un arsenal de lois, de dispositions juridiques qu'on a tenté de mettre en place. Il y a des plans de concrétisation avec la construction des 1000 écoles, si ça peut être réalisé par année. Mais je crois que si on doit vraiment faire le bilan, si on doit évaluer la situation de l'enfant congolais, on n'aura pas honte aux yeux pour dire que ce bilan est encore déficitaire, ce bilan est encore médiocre. De quel enfant est-il exactement question au débat d'aujourd'hui? Nous parlons seulement de l'avenir de ces enfants qui proviennent de familles riches, qui ont quand même accès à une bonne scolarité, qui ont quand même accès à une bonne éducation. Et nous parlons de l'avenir de ces enfants qui ont la chance de se retrouver dans des milieux urbains. Nous pensons aussi à ces enfants qui se retrouvent dans des coins et recoins de la RDC où il n'y a aucune infrastructure scolaire, où les parents sont clochardisés, ou de ces enfants qui sont soumis à des corvées, des travaux pénibles, messieurs les journalistes. Donc, il y a des lois qu'on a votées, mais nous devons aussi dire que toutes ces lois ne sont pas toujours respectées. Il y a des dispositions qu'on est en train de prendre, M. Pierrot, dans une ville comme Kinshasa. Un papa qui habite Kinshasa, un papa qui habite Machina, un papa à qui on donne 80 000 francs de mois, qui a 5 enfants à scolariser. Est-ce que vraiment, on est sûr que ce papa le ferait dans de très bonnes conditions? Un papa qui se retrouve dans des coins de Bakata là-bas, vers Machambio, dans ce coin-là où il n'y a aucune école bien construite, est-ce que ces enfants peuvent aussi vraiment être sur la liste de ces enfants dont nous sommes en train de parler ici? Monsieur le journaliste, pour moi, ça c'est un thème qui me préoccupe. J'aimerais peut-être un jour qu'on me tue à RDC pour ma franchise, parce que quand on voit comment ça se fait chez nous, c'est injuste. Nous parlons de quel enfant? De ces enfants qui assistent à toutes ces injustices sociales, de ces enfants qu'on soumet à des exploitations minières, de ces enfants qui sont contraints au service militaire pour ces dates de rébellion, ou de quel enfant est-il question ici? Donc, le droit de l'enfant congolais est encore à repenser. On ne peut pas seulement repenser les droits de l'enfant sans repenser les conditions des parents. Donc, on doit d'abord donner le minimum aux parents pour bien encadrer les enfants. Or, chez nous, nous savons qu'il y a des enfants à l'âge de 10 ans qui doivent prendre des parents en charge. Et nous, nous devons vraiment parler de l'avenir de ces enfants à qui on demande maintenant de prendre le parent en charge à l'âge de 10 ans. Et chez les journalistes, j'aimerais m'arrêter là-bas et on va encore suivre le débat prochainement. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Franck. Vous avez insisté sur l'enfant pour ne pas se focaliser uniquement sur l'enfant qui vit dans les milieux urbains, c'est-à-dire qui a l'occasion d'aller à l'école, dont les parents ont les possibilités de réduire les minimums pour lui permettre de s'épanouir. Mais quand on fait le débat sur l'enfant, vous insistez sur le fait qu'on puisse s'intéresser à cet enfant qui est dans les milieux les plus reculés qui est possible, l'enfant qui n'a pas la possibilité d'avoir accès à l'infrastructure de base nécessaire, cet enfant qui n'a pas la possibilité d'aller à l'école, cet enfant qui est soumis aux travaux forcés, qui se débrouille pour prendre en charge même, bien sûr, les parents. Vous insistez là-dessus, c'est que le débat, quand on parle de l'enfant, il faudrait au niveau du pouvoir public s'intéresser à l'enfant dans sa globalité et plus l'enfant qui est en difficulté, quelles que soient les lois que nous pouvons avoir. C'est de cette façon-là qu'on peut arriver à valoriser les droits de l'enfant congolais. Vous l'avez dit, les droits de l'enfant congolais encore à repenser. Merci beaucoup, Franck, pour votre point de vue. Nous retournons ici à Kinshasa. Maître Likonza, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
Vous avez suivi, hein, Franck venait de le dire, il ne suffit pas tout simplement d'avoir des instruments juridiques qui garantissent les droits de l'enfant, mais il faut encore avoir la volonté de se concentrer sur ça et de travailler pour permettre à ce que cet enfant puisse vraiment se retrouver dans ce droit qui est prévu dans ces textes juridiques. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour y arriver, Maître Likonza?
Oui, bien merci. Je pense que il a raison de dire tout ça. Dans tous ces instruments juridiques, il y a quelque chose de très important, l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans tout ce que l'on fera pour l'enfant, il faudrait mettre en exergue son intérêt supérieur. L'intérêt supérieur doit commencer au niveau même de la famille. Un parent fonctionnaire de l'État qui n'est pas bien traité sera incapable de prendre en charge la survie de son enfant. Et partant, il deviendra irresponsable. Alors, lorsque les parents deviennent irresponsables, c'est l'enfant qui cherchera à prendre en charge sa survie, son avenir. C'est ainsi que dans notre pays, il y a une pratique, ce sont les enfants qui prennent en charge les familles. Les parents restent à la maison, on voit les enfants en train de circuler, de parcourir les différentes rues dans différentes cités du pays, pour vendre qui les chikwangs, qui les oranges et qu'on sort. En même temps, cet enfant qui circule comme ça, il est en train de passer tout son temps dans la rue en train de vendre. Les amis sont à l'école. Et s'il ne va pas à l'école, c'est à cause de frais d'études. Or, dans tous ces instruments juridiques, notamment la Constitution et la loi portant protection de l'enfant, il est bien dit que l'enseignement primaire est gratuit dans les établissements scolaires publics. Mais ça pose problème jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand l'enfant descend, surtout les filles mineures, elles sont exposées à beaucoup d'abus, notamment les violences sexuelles. Vous avez également relevé la loi sur les violences sexuelles. Ces enfants, les filles mineures qui vendent par-ci par-là, sont prises d'assaut par les bourreaux qui, se faisant pour acheter ce que les enfants vendent, profitent de l'occasion pour s'abuser de ces filles-là. Et quand les filles rentrent à la maison, ne connaissant aussi rien de ce qui s'est passé, elles gardent le secret et ne partagent pas la nouvelle, l'information avec les parents. Et c'est par après que les parents découvrent la santé est dégradée, l'enfant commence à pleurer, et finalement, je voulais également partager une situation qui se vit actuellement même à Badolite. une fille de 14 ans est décédée le 1er juin dernier à cause d'un cas de viol. Elle était en train de vendre le chicouan, arrivée dans un hôtel que le conseil connaît, c'est Bado, il peut vérifier. Un bourreau qui travaille dans cet hôtel-là s'est abusé de la fille, et la fille a gardé le secret, et quelques jours plus tard, elle a senti des douleurs dans son ventre. Et finalement, quand les parents ont cherché à savoir le pourquoi, la fille a dévoilé le secret. Le dimanche 31 mai, les parents ont amené la fille à l'hôtel pour chercher le bourreau. Le bourreau ne travaille pas ce dimanche-là. Et finalement, le lundi 1er juin, la fille a rendu l'âme. Et les jeunes du quartier ont tenté de saccager le bureau de la police où le dossier a été transféré. Mais au moment où nous parlons, le bourreau serait gardé au parquet de Gabonais. Voilà des situations que le pays est en train de connaître pendant que les instruments juridiques existent. Et pour peut-être citer...
On termine par là, oui.
Je voudrais signifier que l'exécution, l'application de ces lois se fait de manière sélective. Parce que quand les enfants des fonctionnaires qui ne sont pas bien traités sont en train de souffrir dans la rue, on voit les décideurs, leurs enfants étudier dans des écoles bien réputées, qui à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, et ici, on ne veille pas au respect des lois, et ce sont les catégories d'une classe moyenne qui souffrent, et la loi reste là, maître mort.
Voilà, merci beaucoup, maître Trésor. Désolé vraiment pour la situation des badolités. Heureusement, vous l'avez dit, le bourreau a été arrêté, il serait au parquet. On souhaite que le droit soit dit pour que cette famille puisse être récompensée par rapport, n'est-ce pas, à cette perte. Imaginez-vous une fille de 14 ans perdue parce qu'elle s'est retrouvée en train de vendre sur la place publique, et c'est là qu'elle a été à... que quelqu'un a profité pour abuser d'elle. Et cela arrive dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de cités, quand les jeunes filles sont aujourd'hui obligées d'aller sur la voie publique pour vendre, et les adultes profitent pour abuser. Ça, vraiment, c'est une grande préoccupation. Vous estimez qu'il faudrait vraiment que les lois soient appliquées d'une manière égale, hein, pour permettre à ce que tous les enfants, que ce soit ceux de ceux qui sont élevés en dignité et les enfants qui sont dans les milieux défavorisés, tous arrivent vraiment à avoir le même droit. Et c'est pour cela que nous organisons ces émissions, c'est pour lutter effectivement pour que l'enfant congolais retrouve ses droits et sa dignité. Merci beaucoup, maître Likonza. Maître Pascal, vous êtes à Dungu, en province orientale. On va vous accorder la parole et revenir à notre invité, maître Bibiche Moussengue. Mais en attendant, on est à Dungu avec vous, maître Pascal, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à la radio Capi.
Et vous travaillez, n'est-ce pas, dans votre structure, je crois bien, vous vous battez aussi pour le droit de l'enfant dans une ONG, je crois, très bien. Et à Dungu aujourd'hui, quels ont été les efforts fournis pour améliorer la situation de l'enfant par rapport à ces instruments juridiques qui garantissent, bien sûr, le droit de l'enfant, y compris la constitution, comme venait de le dire maître Sonville de Lubumbashi tout à l'heure?
Oui, merci monsieur le journaliste de m'avoir accordé, et puis comme vous venez déjà de le dire, nous travaillons aussi dans une structure des droits de l'homme, Human Rescue, dans laquelle on travaille aussi sur la protection de l'enfant avec les partenaires UNICEF, y compris le DIVA. En tout cas, ici, vraiment, ça commence à marcher, mais c'est qu'on peut parler dans ce sujet, il faut d'abord distinguer les enfants en trois catégories selon moi. Il faut les enfants FL, ce sont les enfants en conflit avec la loi, les enfants abandonnés et les enfants qui sortaient, communément appelés les enfants de la rue. Donc ici, il y a encore des problèmes énormes qu'on peut rappeler à notre gouvernement pour que les droits de l'enfant puissent être respectés. Parce que nous tous, nous étions des enfants pour qu'aujourd'hui qu'on puisse nous appeler des adultes et tel. C'est ça que je vais parler. Bien, j'encourage notre gouvernement à avoir rectifié des articles, à avoir aussi promulgué des lois qui protègent l'enfant. Loi de 2009 concernant violence sexuelle, y compris aussi à la protection de l'enfant. C'est bon. Mais ce n'est pas seulement établir la loi qui va terminer les histoires. Mais ce que je peux demander à notre gouvernement, il faut aussi la promulgation de la loi. Et après avoir promulgué, il faut la vulgarisation. Parce que ici, on va promulguer la loi au niveau de Kinshasa, mais dans des milliers ruraux, nous ne recevons pas donc la loi, donc le journal officiel. C'est ça qui fait qu'il faut d'abord la vulgarisation. Donc, à travers des ONG, on est en train de plaider pour les enfants. Je pense il y a deux jours que je viens de publier un communiqué concernant les enfants en conflit avec la loi. Il y a une structure ici appelée communément DIVAS, Division des affaires sociales. C'est un service étendu qu'on travaille avec eux en synergie pour plaider les causes des enfants en conflit avec la loi. Mais ce qui se pose la question, donc ici à Dungu, il n'y a pas de lien là où on peut siéger, là où on peut garder ses enfants. Donc, s'il y a des problèmes, il faut que ces enfants puissent rester au niveau de la prison. Mais c'est les journalistes. Vous savez, la loi nous dit que non, la femme a compris. Donc, la femme mineure, nous déterminons la femme mineure, c'est toutes les personnes qui ont âge de moins de 18 ans. Donc, il n'a pas la maturité. Il n'a pas aussi la culpabilité pénale. Mais tandis que vous, donc les enfants de moins de 18 ans qui sont carcérés avec le militaire et les adultes dans un même lieu carcéral, en sortant de là, directement cet enfant devient récidiviste. Parce qu'il reçoit beaucoup de conseils et il se sent vraiment, il est encore capable de faire tout ce qu'il faut. C'est vrai que le gouvernement aussi doit se préparer. Et doivent organiser, comme il a déjà promulgué la loi qui pour l'installation des préfets, parce que c'est le préfet, là où il n'y a pas le tribunal d'enfants, le préfet automatiquement assume la fonction de tribunal d'enfants. Il faut aussi qu'il puisse aussi doter, les moyens pour que ce préfet puisse bien fonctionner. Mais à travers les humanitaires, la MONUSCO et les INSEP pour qu'on soit, que le préfet de Dungu peut passer. Il y a Faraj et Ouadja. Donc, d'autres territoires, les préfets ne fonctionnent pas. Quel sera le sort des enfants?
Les enfants dans ce milieu-là. Et là, vous avez raison, Maître Pascal. D'ailleurs, vous avez catégorisé ces enfants en trois, les enfants confiés avec la loi, les enfants abandonnés et les enfants dissociés. C'est un phénomène qui, dans beaucoup de nos villes, fait que les enfants sont rejetés par leur famille parce qu'ils sont accusés de sorcellerie. Mais vous avez aussi raison. Vous savez, quand l'enfant est accusé de sorcellerie, tout petit peu, il est tout petit. Quand il va grandir, il étudie, il termine, il commence à travailler, il a beaucoup d'argent. Ce sont les mêmes personnes qui l'ont accusé de sorcellerie hier qui commencent à les fréquenter aujourd'hui. Là, on trouve qu'on a oublié vite cette sorcellerie qu'on a accusé l'enfant à l'enfance. Mais vous estimez que l'État doit mettre des moyens nécessaires, surtout à Dungu. Il faut qu'il y ait les tribunaux pour enfants, les tribunaux de paix, mais aussi des infrastructures pour encadrer les enfants. Ces enfants qui sont en conflit avec la loi ne peuvent pas être détenus en prison avec des militaires. Vous voyez, à la fin, ils sont influencés négativement dans ces milieux-là. Ils doivent être placés dans des centres, n'est-ce pas, d'encadrement, dans des foyers où ils peuvent être récupérés pour les aider. Merci beaucoup. Félicien, vous gardez la ligne. Nous allons revenir à notre invité, Madame Maître Moussaïe Bibiche, hein, avocate et coordonnatrice de REGEPA, une ONG qui milite pour la réinsertion et l'encadrement des jeunes. Nous allons lui accorder la parole pour placer mon par rapport à ce qui a été dit par l'ensemble de nos compatriotes. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Maître Bibiche Moussengue, je crois bien vous êtes avec nous.
Oui, monsieur.
Voilà, vous avez suivi le premier groupe des compatriotes qui sont pour la plupart avocats, à part monsieur Franck de Vienne. Quelle réaction par rapport à ce qui venait d'être dit tout à l'heure par le compatriote?
En fait, je voudrais un peu réagir par rapport à l'ami qui a évoqué la problématique de commerce et de l'aspect économique. Mais je voudrais que ces problèmes-là soient résolus, pas seulement en avant, mais en aval, mais en amont.
Mm-hmm.
Que je me dis, ces enfants-là qui sont en train de déambuler sur les rues, est-ce que ces enfants-là sont pris en charge? Est-ce qu'ils fréquentent le milieu scolaire ou professionnel? Pas du tout. Si je suis en train d'évoquer ma circonscription à Boma, dans le Bas-Congo, Congo central bien sûr, il y a un grand pourcentage de jeunes filles, des enfants qui ne fréquentent pas des milieux scolaires et qui ne connaissent aucun métier. Et ils sont là dans la rue, exposés à toutes sortes de formes de violence. Et ces enfants-là, je crois qu'il faudrait qu'il y ait une synergie entre le gouvernement et les organisations de la société civile, parce que ce sont ceux-là qui travaillent à la base, ce sont ceux-là qui accompagnent les victimes de ces violences-là, et surtout que nous sommes en train de faire à la fois l'assistance judiciaire. Donc moi, je pense que nous ne devons pas nécessairement copier les lois qui viennent d'ailleurs, mais nous devons les adapter à notre réalité, à la culture africaine, évidemment. Et aussi vulgariser, comme l'autre Annie l'a dit, bien dit, les articles ou les éléments qui avanceraient la procédure, puisque cette procédure-là n'est pas connue. La population ne sait pas comment se plaindre, comment la procédure s'est faite en matière d'enfance. Et personnellement, j'ai eu un dossier de viol d'un enfant de 10 ans, et cette mère-là s'est rétractée parce qu'elle n'avait pas un 5 dollars pour payer le prêt de justice pour se constituer sa vie civile. Donc vous voyez, nous, les sociaux des organisations civiles, nous sommes en train de l'utiliser, mais le gouvernement ne fait pas attention au travail qui est fait à la base. Donc, les institutions, les établissements des gardes doivent être implantés dans toutes les circonscriptions d'éducation. C'est très important pour l'enfant pour éviter la justice privée. Puisqu'un enfant qui viole un enfant, et cet enfant-là est régné chez son père, à la garde de son père dans le même quartier, donc ces enfants-là sont très exposés. Donc moi je pense que c'est très important, et pour les infractions, c'est qu'il y a des manquements d'infractions qui sont assez bénins. Donc je pense qu'il faudrait que les affaires sociales, ensemble avec les ONGD, essaient un peu de voir comment créer des médiations, hein, pour essayer un peu de créer un climat sain et un climat favorable à la paix sociale. Donc, c'est un peu ça. Et le gouvernement ne doit pas totalement se désolidariser par rapport à l'aspect, donc le phénomène qu'on appelle enfant dissocié.
Oui.
Dernièrement, j'ai été au Mali avec l'Organisation internationale de droits de l'homme, un droit de l'homme. Et je crois qu'à la fin du mois, ici, nous serons à Strasbourg, toujours sur la problématique de l'enfant. Alors, le gouvernement ne doit pas parler, imputer cette responsabilité-là aux églises et aux pasteurs. Moi, je pense qu'il doit être conséquent et travailler en synergie avec les organisations, avec ceux qui travaillent à la base, au lieu de s'imposer et de créer de lois qui ne s'adaptent pas à la culture.
À la réalité, à la culture. Merci beaucoup, maître Bibi Chimoussegui. On vous garde en ligne. Il y a d'autres compatriotes qui se sont ajoutés dans cet échange. Félicien Tissé Kinshasa. Romain nous appelle de Chikapa au Kasaï occidental. Docteur Laurent Bailanda Kambale nous a écrit des Boutembo dans la province du Nord Kivu. Le gouvernement congolais doit valoriser ses lois en disponibilisant une éducation gratuite efficace, car l'éducation est le droit principal de l'enfant. La protection doit se faire en mettant en place des structures spécifiques, parce que nous voyons les enfants de moins de 15 ans être incarcérés dans des prisons avec des adultes. La lutte est longue, mais le gouvernement y arrivera. Junior Yela dit ceci, il n'y a pas de fumée sans feu, l'enfant congolais est maltraité, quel que soit les lits des lois supposées lui apporter la protection. Car d'une part, il y a la grande ligne rouge de la situation socio-économique de notre pays qui fait que celle-ci puisse se laisser faire pour compte. Au moment où je vous écris, c'est surtout cette période des vacances, c'est à l'enfant de travailler jusqu'au sacrifice suprême pour préparer lui-même sa rentrée scolaire. Les pires écrivants, c'est pourquoi nous plaidons pour une justice distributive et responsable. C'est-à-dire qu'il faudrait que les richesses du pays soient distribuées de la même manière, afin de permettre à tous les enfants d'accéder à l'éducation sans pouvoir travailler pendant les vacances. Félicien, vous êtes avec nous ici à Kinshasa, bonjour.
Ah, bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs aussi.
Alors au-delà de loi, au-delà de ce que la société civile fait, les ONG, vous l'avez suivi dans cette émission, le phénomène dit enfants sorciers dans nos milieux, les enfants qui travaillent, ils sont les gens. Aujourd'hui, plus efficacement, Félicien, qu'est-ce que vous pouvez donner comme piste et des solutions pour que cet enfant congolais retrouve son droit?
Ah, merci Pierrot. Moi, quand on parle des instruments, je dis que qui protège l'enfant, moi, ça me fait rire. Et moi, je pense pas que c'est en Afrique, en général, en République démocratique et du Congo en particulier, nous serons prêts pour protéger les enfants. Tant que nous aurons des générations d'hommes d'État et d'hommes politiques cupides et égoïstes, nous ne pouvons même pas penser à ce genre de choses. Nous sommes encore à l'état où je ne sais pas comment faut-il qualifier ça. Et nous devons nous battre pour que nous puissions devenir des hommes civilisés comme partout ailleurs, où le revenu national est vraiment géré de façon à le répartir à toutes les couches de la population.
Mm-hmm.
Vous allez comparer la protection de l'enfant que nous protégeons avec ces fameux instruments judiciaires dont vous parlez et qui ne peuvent agir qu'en aval et non pas en amont. C'est-à-dire que quand on a violé un enfant qui va en les chiffrant ou bien un enfant qui est en train de vagabonder dans la rue et tout ça, et là, alors vous allez les protéger en allant au tribunal en justice. Et quelle justice? Qui est accessible à quel genre de personnes? Si nous qui avons encore du travail, qui avons encore des petits moyens, nous avons de la peine pour aller en justice, ce sont ces gens-là qui vont de chez quoi, qui vont aller en justice parce qu'on a violé son enfant, parce qu'on a fait ceci, on fait cela. Donc on ne se moque pas de la population, nous avons une longue lutte et nous devons nous battre pour sortir de cela. Et moi je vois que nous atteindrons cet objectif quand nous aurons des hommes politiques conscients, quand nous aurons des hommes qui vont penser au patriotisme et qui vont aimer leur prochain, et nous pouvons arriver à instaurer des politiques qui puissent s'occuper de ces genres de personnes qui sont démunies, de ces genres de personnes qui n'ont pas de voix et qui doivent être protégées par l'État ou le gouvernement. Comparer la protection de l'enfant dans sous d'autres cieux où nos compatriotes sont partis, se réfugiés, ils ne veulent plus rentrer au pays parce que ils sont là, ils passent des mois entiers, des années entières sans travailler et ils vivent grâce aux revenus qu'on paye aux enfants. Et ils sont là en train de mettre au monde des enfants. Les enfants sont devenus une ressource. Voilà le pays où on s'occupe des enfants. Et nous ici, nous voulons aller là-bas pour aller vivre grâce aux enfants. Et dans ce pays, avec tout ce que Dieu nous a donné, quel jour nous allons penser à payer, à mettre l'enfant à l'aise? Quel jour nous allons penser si les parents n'ont même pas du travail? Et même là où on donne du travail aux gens, vous trouvez nos compatriotes qui sont partis se réfugier là-bas, ils ne veulent même pas le travail parce que le chômeur est payé et l'enfant est payé et il s'en suffit pour qu'il puisse vivre. Mais nous devons chercher à jouir de toutes nos richesses, à faire en sorte que le revenu national soit équitablement réparti. Et là, nous n'en arrivons pas parce que nous n'avons pas la volonté politique. Nous n'avons pas des hommes qui pensent aux autres. Les gens vont en politique pour eux-mêmes et non pas pour servir. Et c'est là que nous devons nous battre. C'est là le combat. Et non pas commencer à dire il y a des instruments juridiques qui protègent. Non, ça c'est pour se conformer à la communauté internationale, pour faire plaisir à la communauté internationale qu'on a des instruments juridiques, qu'on a ratifié telle loi et telle loi. Mais ça ne sert à rien dans notre pays, Pierrot.
Ça, ce que vous avez dit, c'est important, Félicien. Vous estimez que le problème aujourd'hui, ce n'est pas toutes ces lois. comme notre invité l'a dit, il y a des lois qui, des fois, sont votées pour la consommation extérieure. Beaucoup de gens sont revenus plusieurs fois dans parole aux auditeurs pour les dire. Mais vous estimez que la lutte, elle est encore grande parce qu'elle doit s'inscrire dans le changement de la politique sur le plan social, la redistribution de richesses. Et vous estimez que c'est à ces niveaux-là qu'il faut d'abord travailler. C'est en travaillant à cela qu'on pourra avoir une société où les parents peuvent être à mesure de répondre, de prendre en charge leurs enfants, et aussi les enfants vont être considérés, parce que vous l'avez évoqué, beaucoup de compatriotes qui s'en vont ailleurs parce qu'ils estiment vivre par rapport grâce aux enfants qui sont pris en charge par les pouvoirs publics, et c'est là qu'elle doit effectivement se concentrer la lutte aujourd'hui. Comme le disait Maître Riconza, la route est encore très longue par rapport à ce qui doit être fait pour permettre à l'enfant de s'épanouir. Merci beaucoup Félicien Romain, vous nous avez rejoint dans ce débat. Vous êtes à Chicapa au Kassai occidental, bien sûr, une zone d'exploitation minière également, où des fois les enfants sont abandonnés, ils travaillent dans les mines. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Y a-t-il beaucoup de fonds qui ont été fournis, Romain, pour permettre à l'enfant à Chicapa par exemple de quitter les mines et se retrouver à l'école et changer sa situation?
Oui, effectivement, il y a eu des fonds qui ont été fournis dans ce sens-là par les organismes comme UNICEF à travers les ONG qui travaillent localement, comme CEMEA, comme BDD et autres, qui cherchent à sortir les enfants de mines, c'est vrai. Mais tenter de soulager tant soit peu cette situation, c'est pas une solution pérenne, parce que nous savons que la vraie solution, comme l'a dit ceux qui m'ont précédé sur le plateau, c'est de juste valoriser l'enfant. L'enfant doit être valorisé par le social que vit ses parents. Est-ce que les parents eux-mêmes qui ont la charge de ses enfants sont capables pour le moment, avec la situation qui est la nôtre dans le pays, avec des salaires qui ne signifient rien ou qui sont absents, avec toutes les difficultés que nous connaissons, est-ce que ces parents sont à mesure d'offrir à ces enfants un cadre idéal pouvant les empêcher, pouvant leur donner l'amour et la dignité de rester en famille? Voilà pourquoi les enfants se retrouvent dans le mine partout. Ils sont devenus des partenaires au lieu d'être des enfants. Partenaires dans quel sens? Ils vont chercher, ils la ramènent en famille, comme le parent, comme la maman, comme le papa peut aussi ramener en famille. Donc la situation de l'enfant à Chicapa, comme je le dis, demeure tellement précaire. Pas que les efforts sont fournis, mais ces efforts, c'est chiffré à 10 ou 15%. C'est pas tellement une histoire un peu costaud qui peut donner l'allure d'une situation réussie. La situation de l'enfant aussi est trop compliquée par rapport à ce que vous-même vous avez... votre République a déclaré la gratuité de l'enseignement. Est-ce que ça a été un enseignement gratuit? Point d'interrogation. On a vu des enfants qui étaient à l'école, abandonner l'école pour aller encore dans les mines, aller rechercher, parce que à l'école, on leur avait promis une gratuité. Apparemment, c'est une gratuité du bout de lèvres, mais effectivement, rien de gratuité. Donc, la situation de l'enfant à Chicapa par rapport à la situation de mines, il faut se dire seulement que les enfants sont encore dans les mines. Je crois que les zones GD se battent, mais la situation est encore un peu pire.
Mais quand on parle des mines, c'est aussi les enfants qui sont dans la rue, on le voit, qui se couchent en dessous des arbres. C'est une situation qui est presque dans de grands centres urbains à travers le pays. Vous avez évoqué la gratuité de l'enseignement qui pose problème aujourd'hui. De quelle manière elle est interprétée? Peut-être qu'on pourra voir une émission plus élaborée avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel pour que nous puissions comprendre à quel niveau se situe effectivement cette gratuité et aussi avoir les témoignages à travers le pays par rapport à la gratuité. Mais du côté du pouvoir public aujourd'hui, il y a la division des affaires sociales par rapport aux enfants qui sont dans la rue. Est-ce que Chicapa aujourd'hui possède des centres de récupération des enfants de la rue, par exemple, pour les encadrer, pour les former au métier, ou bien ces enfants sont presque abandonnés, si on peut dire, s'il n'y a pas des centres qui pensent à l'encadrement de ces enfants, comme on le voit dans d'autres villes, quand même, où il y a des gens qui se battent pour les récupérer de la rue, leur permettre d'apprendre un métier ou soit les réinsérer dans leur famille?
Il y a des centres, mais qui ne sont pas assez nombreux pour la récupération des enfants de la rue et leur initiation à des métiers manuels. Je citerai en son temps, BDD Lego avait initié un projet en partenariat avec CEMEA pour la récupération des enfants de mine il y a de cela quelques années. Alors qu'il est l'un des DCBA, oui, s'occupe de l'apprentissage des enfants au métier manuel, notamment la maçonnerie et la menuiserie, mais aussi la couture pour les filles. C'est presque un ou deux centres, mais vu le nombre croissant de ces enfants sur la rue, je pense que c'est très insuffisant et les efforts sont minimes. Mm-hmm. Parce que ces enfants, comme je le dis, vous les retrouverez dans tous les marchés qui environnent la ville, vous les retrouverez dans les étals, vous les retrouverez sur la rue, dans le dessus des arbres. Donc, ils sont assez nombreux que le centre qui les encadre sont minimes, donc les efforts sont maigres. Ça demande encore plus l'implication du pouvoir public. Mais le pouvoir public, à travers même les affaires sociales que vous avez citées, les affaires sociales, bon, ils font toujours figure des systèmes par un pauvre. Comme qui dirait, le gouvernement ne met pas de moyens à la disposition des affaires sociales pour pouvoir s'occuper de cette question. C'est seul, par moment, quand ils accrochent dans le programme avec les organismes comme l'UNICEF, qui les appuie à travers les divisions, bon, ce sont des appuis, mais des appuis sporadiques et qui ne sont pas des appuis pérennes. Donc, c'est un peu difficile. Cette problématique des enfants de la rue est multimillénaire. Ce sont des décennies qu'on a parlé de toutes les années. L'UNICEF fait des efforts, les autres instituts font des efforts pour arriver à soulager ce mal, mais le nombre est toujours croissant. Plus grand encore, il s'est développé dernièrement, il s'est développé un trafic d'enfants. Des gens partent de la capitale chez vous vers les entités dans lesquelles nous nous trouvons pour piquer des enfants. Il y en a qui ont été retrouvés à Bandundu, les autres à Kinshasa qui ont été, que nous-mêmes individuellement, nous avons aidé quand ils ont été retrouvés à revenir sur la vie. Donc, c'est une situation, la situation de l'enfant, des mères pires au pays, pour ne pas parler de Tshikaba.
Voilà, merci beaucoup. Romain, d'ailleurs, on a eu aussi des émissions par rapport à ces trafics qui ont été dénoncés. Il y a des enfants qui sont ici récupérés pour travailler. Ce tableau montre qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être fournis. Jean-Claude, gardez la ligne. Maître Moussengue Bibiche, vous avez suivi les auditeurs, mais vous qui travaillez comme avocate, mais aussi dans le domaine humanitaire, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des discussions, des cadres, des concertations et d'échanges avec le gouvernement, le pouvoir public, pour effectivement dégager des pistes des solutions plus efficaces par rapport à la situation de l'enfant. Maître Monseigneur, vous êtes avec nous? Excusez-moi, là, on a des petits soucis des lignes avec notre invité. Le temps d'aller à Gemena, dans la province de l'Équateur. Jean-Claude, vous nous avez rejoint dans cette émission. Bonjour, Jean-Claude.
Oui, bonjour, Monsieur Thiraud.
Et on vous écoute,
Jean-Claude. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Mmh. Ici, j'interviens à Gemena. Moi, c'est Jean-Claude Ibaké Mouzama. Je suis le coordonnateur des assistants sociaux dans le sud du Ubangi.
Oui.
J'interviens directement en tant que technicien en matière de protection des enfants. Puisque il s'agit des enfants, c'est pourquoi on a essayé d'appeler pour essayer un peu de partager l'expérience et voir comment proposer quelques pistes de solutions par rapport à la protection des enfants.
C'est important, vraiment.
Alors, je pense que j'abonde comme les prédécesseurs. Le problème ou la problématique de protection des enfants demeure encore une préoccupation très majeure pour notre pays.
Mm-hmm.
J'ai dit pourquoi. Et comme les amis ont abondé, j'ai dit les responsabilités ne sont pas seulement de la part du gouvernement, ni aussi de la part de la population. Je crois pour moi, les différentes responsabilités sont vraiment partagées dans le sens que le gouvernement a sa responsabilité, la population aussi a sa responsabilité.
Mm-hmm.
Comme a dit le prédécesseur, nous avons les différentes catégories des enfants qui sont cités nommément par le prédécesseur. Il y a les enfants de la rue, les enfants du sorcier, les enfants en conflit avec la loi, et tous les enfants victimes de violences sexuelles, ainsi de suite. Toute une litanie de catégories. Alors si, par rapport au gouvernement, le gouvernement a rendu aussi une tâche facile en promulguant des lois qui portent vraiment la protection des enfants, qui se portent vraiment sur la protection des enfants. Il y a la loi en matière de violence sexuelle, il y a des lois, il y a même loi donne même l'opportunité à la société civile de s'organiser d'une manière ou d'une autre en vue de protéger toujours cet enfant-là. Mais cependant, il se pose un problème de l'applicabilité parfois de la loi et aussi de l'acceptation ou de l'appropriation de cette loi par la communauté. je dis en connaissance de cause, par rapport au gouvernement. Le gouvernement a promulgué bien sûr des lois, il a initié des cadres de concertation, et dans le cadre de notre district, il y a une coordination de protection de l'enfant, donc qui réunit les acteurs étatiques et les acteurs de la société civile. Mais parfois, quand on se croise, on émet des suggestions par rapport à la protection de l'enfant, il se pose un problème de suivi et de l'application des recommandations ressorties soit de la société civile ou soit de cet État, de l'État lui-même. Donc, il y a un problème de suivi par rapport au dossier des enfants, surtout que la loi dit que tout ce que nous devons faire doit concourir au bien-être de l'enfant. Cependant, les différentes recommandations que nous relevons au niveau de la coordination, parfois, il se pose un problème de suivi par rapport à l'État congolais lui-même. Et il y a encore le problème de l'appropriation au niveau de la communauté. Tout part de loin. On ne peut pas seulement attendre que le problème se présente pour combattre. Quand on voit les enfants dans la rue, on cherche comment on peut les dégager de la rue. Ce n'est pas ça vraiment la solution. La solution serait l'appropriation des programmes ou des différentes lois par la communauté. Il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à ce que cet enfant quitte la parcelle ou le ménage pour se retrouver dans la rue.
Merci beaucoup.
Il y a le problème de la planification familiale. Il y a des problèmes. Donc, il y a trop de problèmes.
Jean-Claude, on est coincé par le temps parce qu'il y a aussi Dieu merci qui nous a appelé de Manono qui va intervenir avant le flash information de Radio Capi. Vous estimez qu'il y a la responsabilité au niveau du pouvoir public et aussi de la population. On doit avoir des lois, il faut les promulguer, il faut les vulgariser, mais ces lois doivent être. La population doit s'approprier ces lois pour arriver vraiment à mettre cela en pratique dans ce milieu, mais aussi le problème des responsabilités personnelles dans la planification de ces naissances compte tenu des moyens, des difficultés que nous avons. On me venait de le dire tout à l'heure. On va écouter Dieu merci qui est à Manono dans la province du Katanga. Dieu merci, vous avez rapidement 45 secondes de votre point de vue parce que tout à l'heure, on va avoir le flash information des radios Capi. On vous écoute, Dieu merci.
Oui, Pierrot, le problème vraiment est sensible. Dans notre milieu, si je peux vous dire, Pierrot, il y a les enfants qui travaillent dans le mine. Vous trouvez les enfants à la longueur de la journée, doivent traîner les bidons d'eau, il y a aussi des enfants qui travaillent, qui doivent traîner les glacières sur les vélos pour vendre de l'eau, juste pour un maigre revenu.
Mm-hmm.
Mais on interroge souvent ces enfants pour savoir qu'est-ce qu'il y a à la base. Les enfants sont là maintenant pour partager le poids du ménage avec le ménage, excusez, avec leurs parents.
Mm-hmm.
Vous trouvez un enfant qui vous dit, mon papa s'occupe de la carrière, ma mère s'occupe des chats. Moi aussi, pour financer mes études, il faut toujours aller travailler chez quelqu'un, soit c'est la vente de l'eau, soit c'est aller dans le mine moi-même. C'est tout un problème. Et quelles sont les conséquences, Pierrot? Vous trouvez dans le carrière où les enfants travaillent, ne sortent pas là-bas avec l'argent, ils sortent là-bas avec des grossesses. Mais on a constaté
qu'il y a le problème de grossesse. Les grossesses et les maladies qui se posent dans ces mines où travaillent les enfants. Merci beaucoup, Dieu merci de Manono. Nous sommes en ligne avec notre invité, je crois bien, Maître Bibi Chimousengue. Vous êtes avec nous maintenant.
Oui.
On a eu des petits soucis des lignes téléphoniques. Vous avez suivi beaucoup de nos auditeurs. Il y a une question que j'étais en train de vous poser, c'est celle de savoir, vous qui travaillez comme avocate, mais aussi dans l'humanitaire, y a-t-il un cadre de concertation, des discussions entre les différents partenaires et les pouvoirs publics pour savoir de quelle manière on peut dégager des pistes et des solutions plus efficaces par rapport à l'amélioration de la situation de l'enfant congolais? Avez-vous ces genres de rencontres avec les pouvoirs publics?
Je vous assure, monsieur, que cela n'existe presque pas. Cela n'existe presque pas. Pourquoi je le dis? Parce que il y a, on parle de l'appropriation de la communauté, mais cette communauté-là va s'approprier par rapport à quoi?
Mm-hmm.
Puisque cette communauté-là ne se retrouve pas, ses attentes ne sont pas considérées par rapport aux initiatives prises. Donc, moi, je pense que puisque ces concertations, ces autres concertations-là n'existent presque pas, puisque c'est le gouvernement lui-même qui est en train de se plaindre par rapport aux procédures, par rapport aux initiatives qui ne sont pas très équilibrées. Donc, nous pensons réellement que l'aspect ou l'association de la base des organisations de la société civile doit réellement être prise en place par rapport aux initiatives que le gouvernement doit insérer par rapport aux attentes ou aux intérêts de la population. Puisque c'est cette organisation de la société civile, ces ONG, qui sont ceux qui accompagnent la population et qui connaissent les réalités du milieu de la communauté. Donc je pense que le problème n'est pas par rapport à la communauté, mais les gouvernements doivent être plus responsables pour encadrer cette communauté, pour mettre de lois qui aiderait cette communauté-là à connaître ses droits, ses réels droits qui sont en rapport avec sa comment on va le dire, par rapport à la coutume, aux us et coutumes, et par rapport à un équilibre juridique assez général.
On vous garde le temps de revenir à vous pour la conclusion. Il y a deux autres compatriotes qui se sont ajoutés dans cet échange, Maître Omar et Maître Papissi à Kinshasa. Beaucoup d'avocats se sont exprimés aujourd'hui sur cette question qui touche aux droits de l'enfant. Mais nous avons aussi les messages des nos auditeurs, Michio Onamemba, qui nous a écrit des fonds gros, mais dit ceci: nous sommes contents que notre pays ait voté des lois visant la protection des enfants congolais, mais nous demandons à notre gouvernement de bien vouloir songer à l'amélioration des conditions socio-économiques de la famille où vit l'enfant en vue d'assurer son éducation et son épanouissement. Il y a Christopher Rouhani, il y a des Lubumbashi. Le gouvernement doit d'abord valoriser ses lois en dotant aux enfants un enseignement gratuit et créer les emplois pour permettre aux parents de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Ali Lukusa Dembujima, le problème est d'abord au niveau du gouvernement. Au fait, les enfants sont bien encadrés à condition que les parents soient bien payés. Et à ce moment-là, l'enfant peut revendiquer tous ses droits. C'est-à-dire, l'État doit prendre d'abord ses responsabilités en créant des emplois et en disponibilisant les moyens pour les parents. Dieu merci, Oudongo de Bounia, pense lui qui est membre du Parlement des enfants à Bounia, pense que pour la promotion et le respect des droits des enfants à RDC, ne doit pas tourner autour de la loi. Le gouvernement doit, en collaboration avec d'autres structures, penser à l'amélioration et à la garantie de la vie de ses enfants. Voilà autant de points de vue. Il y a aussi le message de Chantal Faïda qui nous a écrit de Kinshasa. Elle pose les problèmes de naissance au Congo. Sont-elles désirables? Toute la société doit traiter avec humanité les enfants pour leur épanouissement. Ils doivent donc garantir dans le milieu familial entouré de beaucoup d'affection et d'amour. Chaque parent, avant de faire un enfant, devait s'assurer du minimum quant à ce qui concerne sa nourriture, son éducation, ses vêtements, soins, les loisirs de sa progéniture. D'où la nécessité de poursuivre la campagne des naissances désirables pour une planification des naissances. Également, l'assistance sociale des douanes au centre de récupération et d'encadrement des enfants orphelins. Les deux derniers auditeurs de cette émission, Omar, vous êtes ici avec nous à Kinshasa, bonjour.
La BG, bonjour à l'invité.
Alors, vous avez deux minutes, hein, parce que c'est la dernière ligne droite. Vous avez eu l'occasion de suivre depuis 10 heures plusieurs compatriotes autour de cette question sur les droits de l'enfant congolais. Quel est votre point de vue?
Merci Pierrot. En principe, je ne devais pas intervenir parce que mes co-débatteurs ont tout dit. Mais étant militant des droits de l'enfant, j'ai vraiment voulu intervenir.
Mm-hmm.
Comme on l'a dit Pierrot, il existe de mécanismes, il existe de lois. Nous avons la convention de 89 dont on a fait allusion. On a la loi de 2009 portant protection de l'enfant. On a même la constitution. Il existe aussi des structures, mais seulement il y a un problème de la non-application de loi.
Mm-hmm.
Il y a des causes internes et des causes externes. Moi, je prends des points de vue internes. Il faut, comme vous l'avez dit, réhabiliter la famille. Il faut qu'au niveau de la famille, on puisse prendre en charge l'enfant par rapport à son éducation. Parmi les droits fondamentaux, c'est le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation et autres. Mais nous nous rendons compte que ces droits ne sont pas respectés. Notamment, on a promis la gratuité de l'enseignement jusqu'au jour où ce n'est pas respecté. Autre chose, nous l'avons dit dans la loi, si vous lisez, il y a des mécanismes prévus, mais on ne sait pas le respecter. Quel est ce magistrat qui s'est déjà levé pour attaquer un monsieur ou une dame qui viole les droits de l'enfant? Les magistrats dorment, ils doivent se réveiller et attaquer tous ceux qui violent. Et enfin, il y a aussi les inspections du travail, parce que c'est un problème transversal. Il y a des enfants qui sont mineurs, on les soumet à des travaux insalubres qui attaquent leur santé. Quel est cet inspecteur du travail qui a transformé une entreprise qui viole le droit de l'enfant? Donc moi je pense que la solution passe par la prise de conscience des autorités qui doivent sanctionner ceux qui violent, par la prise de conscience du gouvernement qui doit doit bien payer les parents pour s'occuper des enfants, il n'a pas pris de conscience du magistrat qui doit savoir sanctionner tous ceux qui violent les droits de l'enfant. Je pense qu'en les faisant, on aurait mieux fait pour promouvoir les droits de l'enfant.
Merci beaucoup, Omar. Vous avez ajouté cette dimension de la question qui est transversale au le ministère de la Justice, le ministère des Affaires Sociales, mais c'est une question qui préoccupe l'ensemble de la communauté, parce qu'on a aussi évoqué les cas des enfants dits enfants sorciers. Toutes ces questions doivent être résolues, chacun dans sa responsabilité. Nous avons terminé avec vous, Maître Papi. Vous êtes ici avec nous à Kinshasa. Vous avez suivi les uns et les autres en une minute et demie, hein, votre point de vue par rapport à cette question de l'enfant congolais.
Merci, M. Gilles, pour la parole. Je salue aussi tous les auditeurs et les invités de votre émission. Pour ne pas reprendre tout ce que les codes débattés ont déjà dit, moi je vais seulement m'intéresser surtout à ce qui concerne la révision des décisions des juges pour enfants. Vous savez que la juridiction, soit les tribunaux pour enfants, ce sont des tribunaux spéciaux. Alors, les décisions du juge doivent être révisées à tout moment, tant que le besoin se présente. Mais nous nous rendons compte que sur le terrain, donc en pratique, il n'y a pas vraiment une régulière révision par rapport à cela, étant donné que les assistants sociaux qui sont commis à des fois pour suivre l'évolution dans laquelle l'enfant évolue, ne le font pas faute de moyens qui doivent être dotés par l'État congolais. Il y a encore le problème de la consommation de drogue, M. Gilles, pour ne pas répondre à ce que les autres ont déjà dit. Parce que vous voyez, sur la rue, les rues de Kinshasa et ailleurs, les enfants qui sont âgés de moins de 18 ans, pleins de l'alcool et de boire et de drogue en plein air, sans qu'ils ne soient inquiétés. Donc l'État doit prendre toutes ses dispositions pour mettre fin à ces fléaux-là, étant donné que la consommation de boissons alcooliques et de drogues anéanties soit réduite les capacités d'état des enfants. Il y a encore le problème des amendes transactionnelles à ce qui concerne les infractions relatives aux violences sexuelles. Parce que la loi dit, en matière de violences sexuelles, il n'y a pas d'amende transactionnelle. Mais vous allez vous rendre compte que sur le terrain, il y a des négociations qui se font d'ailleurs entre les familles. En plus de cela, il y a encore la non-pertinence de la qualité officielle. Donc en matière de violences sexuelles, que vous soyez politicien, que vous soyez cadre, que vous soyez fonctionnaire, vous ne devez pas être exonéré, vous ne pouvez pas avoir des privilèges par rapport à ça. Mais dans la pratique, c'est le contraire. Donc l'État doit prendre tout cela en considération. Il y a encore un problème d'usage abusif des réseaux sociaux. Vous allez voir les enfants de l'école primaire d'ailleurs qui sont déjà experts en matière d'usage des réseaux sociaux. Donc, il faut que le gouvernement puisse prendre des mesures par rapport à ça. En plus de cela, M. Gilles, on doit réformer cette politique criminelle. En matière de violence sexuelle, il y a un délai à dehors duquel vous ne pouvez plus avoir des moyens de preuve pour culpabiliser les auteurs. Les gens n'arrivent pas à dénoncer.
Ça veut dire que toutes ces questions doivent être abordées, Papi, tout en estimant que c'est une question transversale parce que ça touche au droit, ça touche aussi à la société d'une manière globale. Mais vous avez évoqué le problème des consommations de drogues, par exemple aujourd'hui, des boissons alcooliques, de cannabis et autres. Ça touche les enfants. Ça a été évoqué hier dans cette émission quand nous avons parlé des Kounouna avec le général Kayama. Ça veut dire que toutes ces questions doivent être abordées au niveau de la société pour permettre à ce que l'enfant puisse s'épanouir et se retrouver. Merci beaucoup, Papi. Nous revenons à vous, Maître Bibiche Moussengue, parce qu'on doit terminer cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres. Le chemin est encore long par rapport à la situation de l'enfant. Votre mot de conclusion pour cette célébration de la journée de l'enfant.
Merci. Ce que je suis en train de conclure est que la voix de la population, de la communauté doit être prise en considération. Je suis en train de conclure, comme mon prédécesseur venait bien de le dire, il faudrait qu'on mette en garantie l'enfant la protection de l'enfant ou la famille est le milieu idéal. Cet enfant-là, puisque je suis en train de relever aussi pendant ses vacances ici, le prédécesseur a parlé de milieu alcoolique, le milieu obscène, tout ça, pour d'autres trafics. L'enfant doit être protégé. Pourquoi laisser les enfants circuler au-delà des heures, pendant des heures tardives? Pourquoi laisser l'impunité? Tout ça parce que cette loi-là est en train de tomber petit à petit, caduque par rapport aux attentes et par rapport à la réalité.
Mm-hmm.
Parce que dès le départ, cette loi-là n'a pas été
prise
en considération par rapport aux réalités qui sont sur le terrain et par rapport à la communauté.
Merci beaucoup.
Il faut réviser les choses ensemble avec les communautés, ensemble avec les spécialistes et les organisations de la société civile travaillant sur le secteur.
Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître Bibiche Moussengue. Vous êtes avocate et coordonnatrice de RGEPA, une ONG qui milite pour la réinsertion et l'encadrement des jeunes et la prise en charge des personnes âgées. Merci de nous avoir accordé de votre temps dans cette émission. Parole aux auditeurs. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire ce magazine. Guy Mazango a assuré la mise en onde. Julie Feza Bongonda était la réalisation. Firo et la Meiji vous la présentez sous la supervision de Léonard Moulamba. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net, mais aussi en rediffusion à 20h30 de Kinshasa. Merci, au revoir.